bonsoir à tous. Avec une fin de match juste à temps pour nos infos. Alors que les cybermenaces explosent, les entreprises doivent renforcer leur sécurité numérique. Un vrai enjeu, pas facile pour autant. Deux écoles de Chiché et Mauléon vont participer à un programme de sensibilisation à l'éco-mobilité dans l'objectif de favoriser les changements d'habitude de déplacement aux abords des écoles. L'inflation s'est fait sentir dans la collecte de la banque alimentaire à la baisse le week-end dernier. Puis vous n'avez plus que quelques heures pour faire acte de candidature au tremplin des arrosés d'hiver de Thouars.
La météo. Alors, a priori, domination des nuages demain. Le temps devrait rester sec. Ça, c'est une certitude. Et dans la fraîcheur.
150 entreprises ont participé ce mardi à une sensibilisation sur la sécurité numérique des entreprises organisée par Pôle emploi. Avec les experts de la gendarmerie, cet événement a été relayé par Pôle Métal 2S et c'est l'entreprise MTI à Cerizay qui accueillait les intervenants installés au cœur de l'usine. Les cybermenaces ont augmenté de 400% depuis le début de la crise sanitaire. Plus d'une entreprise sur deux a été victime de cybercriminalité au cours de l'année 2021 et 43% des cyberattaques viseraient les petites et moyennes entreprises. Pour Thomas Fournier, directeur adjoint de la direction de la maîtrise des risques à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, il s'agit d'inculquer aux entreprises une culture de sécurité numérique.
Par exemple, les deux tiers des cyberattaques, c'est du phishing. C'est-à-dire un mail qui est illégitime, mais qui semble complètement normal et qui finalement va faire en sorte de profiler l'entreprise ou alors directement de mettre en place un système d'escroquerie qui peut être massif. Donc, être capable de caractériser un phishing, c'est déjà un premier pas. Le cœur de cible, c'est notamment les entreprises de moins de 10 salariés qui n'ont pas des procédures, des politiques de sécurité informatique et numérique. Donc ce sont finalement des entreprises parmi les plus vulnérables. Donc c'est un discours qui est très simple, mais très opérationnel.
Ce webinaire a permis de présenter une quinzaine d'attaques les plus courantes et comment y faire face. 33% des entreprises victimes de fraude ont subi un préjudice supérieur à 10 000 euros et 14% d'entre elles un préjudice supérieur à 100 000 euros. Alors que faire lorsque cette entreprise est semble-t-il victime d'une cyberattaque? Écoutez la réponse du lieutenant-colonel Boncompain, responsable du bureau de l'appui numérique à l'état-major de la gendarmerie Nouvelle-Aquitaine.
Dès qu'il y a le moindre signe, c'est-à-dire l'ordinateur qui se fige, des systèmes qui marchent moins bien, la première des choses à faire, c'est déconnecter son ordinateur, l'ordinateur infecté, du réseau informatique. C'est-à-dire qu'on essaie d'isoler la machine, du réseau Wi-Fi, du réseau Internet, pour l'isoler, mais on évite d'éteindre la machine elle-même, d'éteindre électriquement. Parce que ça, pour nous, après, derrière, pour l'enquête, c'est important, ça permet de garder des preuves, ce qu'on appelle des preuves numériques.
Alors justement, l'enquête, on imagine que c'est extrêmement compliqué de mener des enquêtes dans cet univers.
Il faut porter plainte. Il faut que la victime porte plainte. C'est une des premières choses. En cas d'urgence, d'ailleurs, on peut même faire le 17. Mais on a des dispositifs et des experts qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire, en gendarmerie. Et donc après, c'est tout le principe de l'enquête, qui peuvent être très longues, souvent qui se font à l'international et qui peuvent aboutir à de beaux résultats. Donc ce n'est pas une fatalité.
Et depuis le début de l'année, ce sont plus de 1600 entreprises qui ont été sensibilisées à la sécurité numérique, comme ce mercredi, à travers ce webinaire organisé depuis l'entreprise MTI à Cerizay.
Mobi, programme national de sensibilisation à l'écomobilité scolaire lancé à Chiché et Mauléon.
Ce programme national accompagne les collectivités dans l'objectif de favoriser les changements d'habitude, dans l'objectif d'instaurer un équilibre durable entre les piétons, les vélos et les voitures aux abords des écoles. Mobi va donc être testé dans les écoles Notre-Dame et Saint-Joseph qui se sont portées volontaires. Concrètement, pendant 2 ans, il va s'agir de comprendre les pratiques de déplacement et les enjeux spécifique de chacun de ces établissements en y impliquant les acteurs que sont les élèves, les parents et les professionnels. Dany Grelier, vice-président au transport, au micro de Jacqueline Pinon.
Oui, ils seront bien évidemment entendus et écoutés, mais dans un premier temps, il y a un état des lieux qui va être fait, le pourquoi et du comment pour tel mode de déplacement, et après, voir ce qui peut être proposé, mis en place pour une mobilité plus douce.
Ouais, là, on recense les besoins.
Les besoins ou les habitudes, parce que souvent, on se rend compte que c'est pas forcément des besoins, mais c'est des habitudes ou un petit confort qui pourrait être remplacé par autre chose, qui pourrait permettre justement de se déplacer sur quelque chose de plus durable.
Ouais, 2 ans, il y a le temps d'approfondir.
Exactement, et c'est ce qui nous intéresse dans un premier temps de voir sur ces deux écoles. Et en plus, c'est bien parce qu'au niveau du territoire de l'agglo 2B, elles sont situées à l'est et à l'ouest du territoire. Ce qui fait qu'on va voir ce que cette étude va donner, et après si d'autres écoles vont s'inscrire, selon bien évidemment les budgets qui seront votés tous les ans au niveau du budget transport, on essaiera de répondre positivement à toutes les études qui pourront être faites.
Et cette action est coordonnée par un bureau d'études retenu dans le cadre du programme des certificats d'économie d'énergie labellisé par le ministère de la Transition écologique et financé à 75% par des énergéticiens. La part restante est répartie entre les communes et l'agglo de B à hauteur de 1 820 € à chacune.
La collecte de la banque alimentaire souffre de la conjoncture.
Ce n'est pas vraiment une surprise. La collecte de la banque alimentaire le week-end dernier a souffert de la crise qui impacte les porte-monnaies de tous les foyers. Les clients des supermarchés sollicités par les bénévoles de la banque alimentaire se sont montrés moins généreux qu'habituellement. Écoutez Michel Morin, le président de la banque alimentaire des Deux-Sèvres.
Ce bilan, il est un petit peu comme on avait pressenti, à savoir, compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat et de l'inflation, nous avons été bien entendu impactés par cette collecte de jour et demi. Au premier résultat, disons, puisqu'on nous n'avons pas terminé totalement le tri, hein, il y a encore quelques magasins à ramasser, on serait quand même sur une base de plus de 10% de baisse par rapport à l'an dernier, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de 80 tonnes, on pense qu'on va avoisiner plutôt les 70 tonnes cette année. Ça correspond, je dirais, au manque à gagner des 15% dans le panier des clients. Eh ben, on le retrouve dans la collecte, tout naturellement.
Moins de dons ce week-end pour la banque alimentaire, mais il n'est jamais trop tard pour se montrer généreux.
Là, il n'est jamais trop tard. Il y a déjà sur le site Mon Panier Solidaire, hein, où les personnes peuvent donner, bien entendu, et ça attribuer à la Banque Alimentaire des Deux-Sèvres. Hein, il n'y a pas de souci. Les dons sont toujours les bienvenus, hein, là également, privés, etc. De manière à pouvoir un petit peu compléter, je dirais, dans les mois à venir, le manque à gagner. Et je tenais à souligner quand même cette année, on a eu de l'aide de certaines écoles qui ont collecté, et puis des jeunes qui sont quand même venus nous rejoindre là les deux derniers jours et encore aujourd'hui pour faire du tri, ce qui est quand même ça un facteur très positif.
Michel Morin, le président de la Banque alimentaire des Deux-Sèvres. Delphine Bateau s'étonne de la publication le 24 novembre de deux arrêtés préfectoraux autorisant deux parcs éoliens sur le Mélois. Pour ces deux projets, les enquêtes publiques avaient conclu à un avis défavorable. Une majorité de communes concernées avait délibéré contre, de même que la communauté de communes. Cette décision intervient alors que le projet de loi sur les énergies renouvelables est en débat à l'Assemblée nationale. L'amendement que la députée des Deux-Sèvres a fait adopter en commission contre l'avis du gouvernement et qui sera discuté en séance à partir du 5 décembre permet d'éviter la saturation et la concentration des projets dans certains territoires. La sagesse aurait voulu que dans de telles conditions, ces projets ne soient pas autorisés par la préfecture contre l'avis du territoire, souligne Delphine Bateau.
À Thouars, la chance pour les artistes locaux grâce au tremplin des arrosés d'hiver.
Plus que quelques heures pour faire acte de candidature au tremplin des arrosés d'hiver de Thouars. Groupe, duo, soliste de musique actuelle, les artistes, sauf les DJ, peuvent s'inscrire jusqu'au 4 décembre sur le site du conservatoire Tindot, histoire de mettre le pied à l'étrier, comme l'indique Sébastien Auger, animateur au centre socioculturel du Toirsais, qui garde un souvenir ému du vainqueur du premier tremplin, le groupe tourangeau de reggae Khalid. Séquence souvenir au micro colline de Dominique Caro.
Ils avaient gagné le tremplin organisé au conservatoire et avaient du coup fait la première partie des arrosés d'hiver avec un beau show qui a été en plus développé sur deux séances d'enregistrement au conservatoire. Ils ont fait la première partie de Va-nu-pieds qui était une soirée incroyable où c'était complet, donc ça leur permet d'avoir une bonne visibilité en première partie d'un groupe professionnel et de déjà de se confronter à une scène professionnelle. Nous on était contents de leur show et eux plein d'étoiles dans la tête également. Aujourd'hui il y a 7 inscrits par rapport au premier cru, on est exactement sur les mêmes chiffres. Donc on peut retrouver du rock, hein, du hip-hop, de la pop, tout style de musique possible. Et après, ils viennent du centre-ouest. On essaye même de faire une com très locale au niveau du nord de Sèvres, en s'appuyant sur des salles comme Bocal, à Bressuire ou Diffart à Parthenay, qui sont des bons relais.
Trois dates à retenir, s'inscrire avant le 4 décembre sur le site internet du conservatoire Tindot de Thouars ou au 05 49 66 41 64 afin de participer au tremplin du 14 janvier. Pour y gagner sa place sur la scène des arrosés d'hiver le 4 février en ouverture du groupe phare qui reste à désigner, c'est le moment de faire connaître son talent. Reportage de Dominique Hérault.
Si vous souhaitez vous initier à la linogravure, un stage est proposé cette fin de semaine.
La linogravure ou la gravure sur linoléum, elle est réalisée à l'aide de gouges, des outils coupants munis d'un manche qui permettent de retirer des copeaux de linoléum et à ancrer les parties intactes. Comme nous l'explique Anne-Sophie de Lyon qui animera ce stage dans son atelier à Voulementin, quartier Saint-Clémentin.
On enlève de la matière sur ce support-là et ensuite on va ancrer les zones qui restent et ensuite on va l'imprimer sur une presse. Il n'y a pas de limite, c'est un support comme une feuille blanche et puis on fait ce qu'on veut dessus.
Faut-il avoir des prédispositions particulières ?
Pas forcément. S'il peut y avoir une recommandation, c'est peut-être sur la capacité manuelle, en fait, être à l'aise sur la manipulation des outils.
Qu'est-ce que vous allez proposer exactement ?
Alors, l'idée, c'est d'expliquer ce qu'est la gravure, parce qu'il y a plusieurs techniques. Là, c'est la technique d'épargne qu'on va aborder. Ensuite, on va définir le projet, définir le dessin. Ensuite, on va faire le report du dessin sur la plaque en lino. Ensuite, on va enlever de la matière, ancrer et faire le tirage sur papier d'art qu'on aura préalablement découpé.
Ce stage de linogravure aura lieu au choix vendredi, samedi ou dimanche à Voulmont. Hein. Informations et inscriptions au 06 83 13 19 13.
L'actualité sportive, Fabien.
En tennis, Bressuire a décroché aujourd'hui un nul à Sannois, en région parisienne, sur le score de 3 partout. Cholet Basket poursuit l'aventure européenne. Vous l'avez peut-être suivi hier soir sur Colline en battant Rilski. Les Choletais se sont qualifiés pour le deuxième tour. Une victoire acquise sur le score de 100 à 75. Assez large pour donner du temps de jeu aux jeunes et notamment à Mathéo Leray, le petit jeune du coin, puisque l'espoir est de Saint-Laurent-de-la-Plaine et ne manque jamais d'encouragement.
Toujours, parce que je suis du coin, donc il y a souvent ma famille qui habite pas loin qui viennent me voir jouer. Et il y avait mon père et mes grands-parents, peut-être d'autres, des amis aussi, j'ai vu. Mais il y a toujours du monde, même pour les matchs espoirs, à me voir jouer, vu que je suis du coin.
Est-ce que tu penses que toi, même si tu as encore espoir, tu peux avoir une carte à jouer en Coupe d'Europe, dans cette compétition-là, sur certains matchs, comme c'est le cas ce soir ?
Possible, après, ça, c'est les choix du coach. C'est si lui il a besoin de moi de me faire jouer et de ce que je sais mettre en œuvre sur le terrain pour être prêt à jouer, mais possible, ouais, possible. Bon, là on attendait d'être qualifié pour pouvoir se projeter sur la prochaine poule, donc on verra les équipes qu'on va avoir dans la poule qui va arriver et on sera prêt à jouer.
Mathéo Leray a joué 11 minutes hier soir et a claqué un 3 points. Duféal et Balfourier ont joué également quelques minutes. Les jeunes peuvent intégrer la rotation avec l'œil bienveillant des plus anciens comme le capitaine Boris Dallot.
Ça fait plaisir parce que voilà, ils travaillent tous les jours et ils sont là pour ça aussi. Ils s'entraînent avec nous tous les jours, ils font partie du groupe. Donc c'est bien de les mettre sur le terrain et ils sont concernés. C'est bien de ne pas faire de différence et voilà, de leur montrer que bah, on est là aussi pour eux. Et c'est comme ça aussi que quand ils vont vieillir, ils vont faire la même chose.
Les Choletais qui vont donc continuer l'aventure européenne avec le deuxième tour de la FIBA Eurocup sous forme d'une poule de 4. Les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale, un deuxième tour qui débutera dès le 14 décembre.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Alors cette météo, Fabien ?
Bah c'est comme avec l'équipe de France, hein. Il n'y a qu'à la fin qu'on saura vraiment le résultat final. Pour l'instant, on prévoit des nuages qui devraient dominer sur les cartes, mais selon d'autres prévisions, ce serait plein soleil. En tout cas, le temps s'annonce bien sec. Ça, ce semble être une certitude. Sec et frais, 2 à 4 degrés pour les minimales demain matin et seulement 6 à 7 degrés pour les maximales avec un petit vent de nord-est hein, qui renforce ce sentiment de fraîcheur. On parlait de l'incertitude de la météo et donc du score qui
entourait
l'équipe
partout,
de France. Quand on a pris l'antenne, il y avait un partout et puis on a appris pendant
puis
le journal
quelques secondes après
que le but de Griezmann dans les arrêts de jeu avait été refusé par la VAR. Donc 1-0 pour la Tunisie, mais c'est pas grave, on est quand même en huitième de finale.
Merci Fabien pour ce point complet sur l'actu. Après Thibaut qui revient demain matin.
Demain matin à 7h avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.